Il faut peut-être que vous mettiez le casque parce que vous n'allez peut-être pas nous entendre si
marche. Oui, c'est vrai que je vais pas
m'entendre. C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aux Assises du journalisme avec Radio Campus France et nous avons le plaisir de recevoir Justine Reix, journaliste indépendante et réalisatrice.
Bonjour.
Bonjour, vous animez une table ronde sur les nouveaux formats autour du fait divers de cette édition des Assises du journalisme à Tours. Vous étiez accompagnée de Vincent Bintigen et Patricia Touranchot. On a pu aborder des questions de support avec une diversification grandissante, notamment avec YouTube, la plateforme sur laquelle vous êtes, X et encore TikTok, les différents angles pris par les journalistes pour raconter les faits divers et les avantages et les inconvénients qu'ils procurent.
Et on a une petite question pour vous. On voulait vous demander, est-ce que vous avez vu une différence dans l'évolution du traitement médiatique des faits divers en France ? Et est-ce que selon vous, il y a plus d'intérêt pour cette rubrique et ces événements de nos jours ?
Oui, évidemment. Je pense que ces dernières années, on a vu une accélération au niveau des productions de contenu, que ce soit sur les plateformes, sur YouTube, sur les médias traditionnels, de traitement, on va dire, de faits divers. Je pense qu'il y a quelques années, on était plutôt sur « on a un procès, on va le couvrir, on va raconter un fait divers qui vient de se passer », alors que maintenant, on va aussi faire des sujets beaucoup plus au long cours, où on va évidemment couvrir des procès qui durent plus longtemps, parce que c'est des procès d'envergure. Et puis, on a aussi des moments où on va reprendre un fait divers qui a marqué les Français ou marqué des gens à l'international, et on va le vraiment détricoter pour le raconter de manière un petit peu narrative, avec un vrai storytelling. Et ça, j'ai l'impression qu'on le voyait beaucoup moins avant.
Question un peu tendue, tu as quitté les médias traditionnels pour te tourner vers un nouveau format. Est-ce que les anciens médias et supports d'information arriveront à tenir la cadence avec les nouveaux formats ?
Bonne question. Franchement, les médias traditionnels, ils ont quand même une force de frappe assez impressionnante, dans le sens où, évidemment, il y a moins de difficultés de financement que, par exemple, les créateurs de contenu. Donc, je pense que les médias ont encore de beaux jours devant eux. Après, il faut quand même qu'ils se remettent en question sur le fait qu'aujourd'hui, la jeune génération ne s'informe pas de la même manière que les autres. Et il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit de plus en plus de médias, notamment, qui sont de plus en plus présents sur TikTok. Et je pense qu'ils ont raison d'investir aussi ces réseaux, alors qu'il y avait quelques années, c'était plutôt non, on reste sur notre média traditionnel et on ne veut pas être dépendant d'un algorithme, ce que je comprends aussi tout à fait. Mais au bout d'un moment, il faut aussi aller avec son temps et créer des contenus qui vont avec les méthodes et les pratiques, on va dire, des jeunes.
Justement, c'est une autre de nos questions, c'est que vous avez pu l'expliquer pendant la conférence que tu as pu faire le choix de te détacher un petit peu de ces médias traditionnels. Justement, t'es passé par Le Monde ou Le Canard Enchaîné, et aujourd'hui tu te lances sur YouTube. Mais ça fait un moment déjà que t'es sur YouTube. Mais pourquoi c'est important pour toi et qu'est-ce que ça représente de te détacher un peu du journalisme traditionnel et des grandes rédactions notamment?
Il y a plein de raisons qui font aujourd'hui que j'ai plus forcément envie d'avoir par exemple un contrat, un CDI qui est pourtant le Graal dans le journalisme, dans un média traditionnel. Parce que, évidemment, il y a la précarité dans les médias traditionnels. Alors attention, se lancer sur YouTube, c'est aussi extrêmement précaire, mais c'est pas le même genre de précarité. Et il y a la précarité où, en fait, on va devenir pigiste et on va galérer pendant des années pour potentiellement avoir un jour un CDD, puis peut-être un jour le Graal du CDI, où on va pas oser le quitter parce qu'il n'y a pas beaucoup de CDI. Donc il y a ce côté, ce contexte économique qui me dérange. Et puis, il y a aussi le manque de liberté. Aujourd'hui, en fait, quand on est journaliste dans une grosse rédaction, on a très peu le choix sur ce qu'on a envie de faire, à moins d'être un rédacteur en chef ou vraiment d'être un ponte du journalisme. Donc je voyais que j'avais de moins en moins de liberté, de moins en moins de possibilités d'aller sur le terrain, et moi c'est ce qui m'éclate le plus. Je suis devenue journaliste pour rencontrer des gens, raconter leur histoire. Je pense aussi que c'est ce dans quoi je suis la meilleure, pour le coup, si j'ai ma chaîne YouTube, je peux faire ce que je veux. Et c'est un peu ça, on va dire, l'avantage de ces inconvénients. C'est évidemment, je dois tout financer, mais en même temps, si j'ai envie de faire un sujet, si je le trouve cool, si je le trouve intéressant, j'ai pas besoin d'aller voir un média et dire s'il vous plaît, financez-le moi, c'est super, etc. Non, je dis ok, j'ai envie de le faire, je le fais.
Et en parlant de médias, est-ce que tout le monde peut s'approprier ces nouveaux formats, notamment avec le code, les éthiques, la déontologie d'un journaliste?
Alors, il y a créateur de contenu, il y a journaliste. Et il y a les journalistes qui arrivent sur ces nouvelles plateformes. Pour moi, c'est deux choses quand même à bien distinguer. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'écris un script pour un YouTuber qui n'est pas journaliste, je ne l'écris pas du tout de la même manière que, par exemple, mon script que j'ai pu écrire pour ma première vidéo, ou par exemple un script que je peux écrire pour Charlila qui est journaliste. J'essaye de faire vraiment la distinction entre les deux. Déjà, les sujets sont généralement pas les mêmes. Généralement, un YouTuber, il va avoir plutôt un ton plus décontracté, où il va faire des blagues. Alors, je dis pas que les gens ils se font pas de blagues, mais des fois on parle de sujets un petit peu plus sérieux, un petit peu plus sévères. Du coup, moi j'essaye de garder cette posture journalistique, même sur ma chaîne YouTube, où évidemment j'ai un ton beaucoup plus décontracté que quand, par exemple, j'étais à la télé. Mais j'essaye de me dire, ok, je me présente comme journaliste et j'interviens et je parle comme tel.
Ok, et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais revenir un peu sur ce que tu fais sur YouTube. Comme tu l'as dit, tu as pu travailler avec Charles Villa, mais on sait aussi que tu as pu travailler pour Squeezie. Est-ce que déjà, toi, en tant que journaliste indépendante, tu rencontres des difficultés dans le fait de te lancer toute seule sur YouTube? Et est-ce que aussi il y avait peut-être une volonté de ta part, en te lançant toute seule, de détacher justement de ce que tu faisais avec YouTube ou Charles Villa?
Alors Charles, c'est vraiment particulier parce que je suis en contrat avec lui et c'est aussi ça qui me permet un peu de me financer sur ma chaîne YouTube, sinon vraiment j'y arriverais pas. Donc Charles, par exemple, je suis en contrat un an avec lui où j'ai quitté un CDI où j'étais en CDI chez Slate avant que là il y ait une annonce où Slate se porte pas bien du tout, mais j'ai quitté un CDI en tant que journaliste, donc voilà, pareil, le fameux Graal, pour rejoindre Charles sur un an de contrat. Et lui m'a incité, il m'a dit vas-y, lance-toi Justine, si t'as envie de te lancer, go. Et en plus, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, qui est journaliste, qui a 800 000 abonnés sur YouTube, je sais que y a certaines erreurs qu'il a pu faire quand lui il a débuté sur YouTube que moi je vais pas reproduire parce que tout simplement il va m'apprendre en fait lui-même c'est les erreurs qu'il a pu faire. Et après je me souviens plus du reste de la question, pardonne-moi, je commence à être fatiguée. Les tours, c'est fatigant.
C'est fatigant, les assises. Mais c'était de savoir si là tu as parlé des difficultés, mais est-ce que pour toi, en lançant ta chaîne, il y a une volonté un peu de te détacher peut-être des scripts que tu peux faire pour certains créateurs de contenu et youtubeurs, justement, pour peut-être plus revenir au cœur du métier qui est le journalisme pour toi, quoi.
Ouais, ça marche. Merci, je m'en souviens maintenant. Il est temps que j'aille me coucher alors qu'il est à peine 14h19. Mais en effet, en fait, en gros, moi, je trouve ça fun, en fait, à écrire des scripts, par exemple, pour Simon Puech, pour Squeezie. Hugo Décrypte et Charles Villa, qui sont deux autres youtubeurs avec lesquels je bosse, je les mets vraiment à côté parce que c'est des journalistes, mais tout ce qui est plutôt divertissement mais qui nécessite, on va dire, des journalistes pour le fact-checking, je trouve ça sympa, mais en effet j'ai pas envie de faire ça plein temps. Et en effet, moi, ma chaîne YouTube, l'objectif c'est de pouvoir faire du terrain, parce que malgré tout ce que je faisais avec les autres youtubeurs, je faisais pas terrain, sauf voilà, une nouvelle fois Charles et Hugo, je suis partie en Corée du Sud avec lui, et Charles, je suis à temps plein avec lui et je pars en reportage. Donc moi, ce que je veux, c'est ce que je disais, c'est partir sur le terrain, de me réapproprier mes sujets et en effet faire le plus possible quelque chose qui ressemble à du journalisme sur cette plateforme aussi singulière qu'est YouTube.
Trop bien. Et est-ce que tu avais une autre question, Samuel, une petite dernière question, est-ce que tu as des projets peut-être que tu peux nous teaser qui t'inspirent, ou des trucs que tu as envie de travailler justement via ta chaîne YouTube, des choses que tu aurais peut-être pas pu faire avant et que du coup maintenant tu as envie de te dire full liberté, ça dépend que de toi, donc nous parler peut-être d'un projet que tu as envie de faire ou que tu vas faire?
En vrai, il y a tellement de trucs possibles, c'est ça qui est cool et que moi qui m'enthousiasme un peu, c'est que je me dis ok, rien n'est impossible concrètement, sauf financement. Mais en gros, là je vais faire pas mal de reportages, j'en ai quelques-uns qui sont déjà en boîte, je vais continuer à faire des enquêtes. Ce qui est cool, c'est que en vraiment prévu, j'ai deux reportages au Japon qui sont pour ma chaîne, qui arriveront du coup en termes de tournage au mois de mai. Donc ça m'enthousiasme pas mal parce que j'aime bien aussi bosser à l'étranger et trouver le prisme qui va intéresser aussi les Français. Et aussi, ce qui est cool sur YouTube, c'est qu'on peut faire des collabs. Donc par exemple, un autre journaliste qui s'est lancé sur YouTube un petit peu avant moi, il y a Benoît Lecor, et qui fait partie aussi un peu de notre écosystème où on travaille tous ensemble. Et on va essayer de faire une vidéo qui, ensemble en fait, qui se répond. Donc chacun aura une vidéo sur sa chaîne, mais un peu sur le même thème. Et en gros, on aura forcément envie de voir l'autre vidéo pour comprendre celle qu'on, nous, on a pu produire. Donc ça, ça m'enthousiasme pas mal.
Trop bien. Merci beaucoup.
J'ai une dernière petite question. Vous dites, Patricia Touranchot disait que c'était une chance de passer de journaliste à journaliste multi-support. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime dans ces nouveaux formats ?
C'est vrai que moi, je trouve ça assez chouette aujourd'hui qu'on soit un peu libéré du support initial sur lequel on était en tant que journaliste. Moi, je me souviens très bien que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait mon école de journalisme. Et à l'époque, c'était vraiment « Non, vous pouvez faire que télé, non, vous pouvez faire que presse écrite, web, etc. » Et le truc de se dire « Ok, je peux faire un petit peu ce que je veux à partir du moment où ça va avec ce format-là », c'est assez intéressant parce que du coup, on sait qu'on va pas s'adresser aux mêmes personnes. Et je sais que voilà, je vais continuer à écrire des livres, mais ça sera peut-être pas lu par les mêmes personnes qui vont regarder ma chaîne YouTube, et vice versa, et c'est pas grave, et ce sera pas les mêmes, même les mêmes sujets, les mêmes contenus, quoi.
Trop bien. Est-ce que, juste pour les auditeurs, tu peux nous donner le nom exact de ta chaîne YouTube pour les inviter à aller regarder tout ça?
C'est facile, c'est mon nom. C'est Justine, du coup, Rex, R-E-I-X. Le problème, c'est que j'étais journaliste et que du coup, quand on tape Justine Rex, il y a aussi des reportages que j'ai pu faire ou des interviews que j'ai pu donner, par exemple, pour mon précédent livre. Mais si vous descendez un petit peu, vous avez la chaîne et vous avez aussi, du coup, la vidéo sur la viande de brousse qui s'appelle « J'ai enquêté sur le trafic de la viande de singe ».
Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Ça va, ça vous allait ?
Ouais, franchement, nickel.